bad thing.
Marceau le matin sur les ondes de Boulevard 101, 418-971-101 pour nous rejoindre. BLVD.fm pour nous écouter sur la web radio. Allez écouter les meilleurs moments. Notre entretien avec Farnell Morisset sur la situation entre les États-Unis et le Venezuela se retrouve à cet endroit-là. Farnell, qui est un vulgarisateur exemplaire d'actualité, un juriste dans le coin de New York, nous a parlé de droit international. Pascal, j'ai trippé sur cette conversation-là.
Absolument, mais je pense qu'elle est essentielle dans la crise actuelle. Hein. Puis faire attention aussi, moi j'ai trouvé la portion de la division actuelle, de l'incompréhension aussi de tous et chacun, parce que c'est beaucoup plus global et beaucoup plus gros ce qui se passe actuellement que juste un peuple qui est un peu délivré de Maduro. Parce que, chose certaine, on ne peut pas être contre la vertu.
Non.
Mais derrière ça, il y a un chaos prévisible et il y a certainement des droits internationaux qui sont assurément fractionnés.
Exactement.
Qui vont peut-être légitimer d'autres présidents, oui, avec d'autres façons de voir le monde, d'agir.
Ils peuvent avoir des conséquences énormes, notamment en Europe, là, où l'Union européenne se prépare plus que jamais à une offensive de la Russie avec d'autres pays qu'elle pourrait tenter d'annexer, là, notamment la Moldavie. Donc, ça va être à suivre ce qui va se passer au niveau international. L'application BLVD 101, c'est la meilleure façon de nous écouter, disponible sur App Store et Google Play Store. Et vous pouvez venir nous voir sur twitch.tv/BLVD/FM. À la météo, c'est une journée très froide, mais c'est la dernière de cette séquence. Présentement, c'est moins 21, moins 30 avec le facteur de refroidissement éolien, moins 16 degrés au maximum pour aujourd'hui, mais on chute immédiatement moins 8 pour demain, 30% de possibilité d'averse de neige, moins 5 pour mercredi avec de la neige intermittente. Si on regarde à plus long terme, ça va être du 2 degrés de la pluie pour vendredi et samedi. Pascal, tu le sais, quand j'ai fait ma dernière apparition à la radio en 2025, je m'en allais à Boucher Généreuse après faire du bénévolat. Et comme toujours, j'ai été très touché de voir le nombre de familles qui étaient dans le besoin.
On était le 24 décembre exactement, autour de l'heure du lunch.
Exactement. J'ai été là de 10h30 le matin jusqu'à environ 4h30 l'après-midi. C'est censé terminer à 3h, mais il y avait tellement de monde qu'on est tiré jusqu'à 4h30. Oh. Et tu connais Marie-Pierre Gravel, comment elle est exceptionnelle, la directrice générale adjointe de la Boucher Généreuse. À un moment donné, elle s'est rendue compte, elle a dit « OK, c'est parce que j'aurais pas assez de denrées avec ce que j'avais prévu. » Et elle avait prévu une augmentation. Donc, à Hawaii, les bénévoles, on les débarquait dans la réserve, on a amené des palettes potelassées de plein d'affaires et monté sur le dessus de tout ça. Puis quand, toi, mon Jeff, prends deux piments pour là, prends deux concombres, prends du brocoli, elle nous divisait ça sur le champ pour s'assurer que tout le monde ait à manger dans le temps des fêtes.
Ça, c'est une seule ressource sur plusieurs à Québec.
En plein ça.
Imaginez.
C'est très touchant. Ce qui arrive, c'est très questionnant aussi pour notre société. Et justement, pour en parler avec nous, on a le directeur général des banques alimentaires du Québec, Martin Munger. Monsieur Munger, merci beaucoup d'être présent ce matin pour nous.
Bonjour, M. Fortin, et félicitations pour votre bénévolat avant les fêtes. C'est impressionnant.
Ah, ça fait plaisir. J'essaie toujours de le faire à deux occasions pour le temps des fêtes. Donc, j'avais fait de la livraison pour le Pignon Bleu, et là, j'ai fait du bénévolat pour la Boucher Généreuse. C'est ma simple contribution de citoyen. Je pense qu'on est gagnant, justement, à prendre soin les uns des autres.
Merci beaucoup, c'est apprécié, ça fait une différence.
Ça fait plaisir. Monsieur Manger, j'ai Vincent qui nous écrit justement sur nos textos en disant « Éclairez-nous, l'augmentation pour 2028 est de 23,4 %. Qu'en est-il pour 2026-2027? » Si j'ai bien compris, c'est une augmentation globale sur ces trois années-là.
Oui, bien en fait, on a fait une étude par Aviséo parce que nous, on a des résultats. Quand on sort le bilan fin, on parle du passé. On parle le dernier bilan fin, on parlait des résultats de mars 2025, mais on voulait prévoir comment ça allait aller et on a demandé à Viséo de nous faire une projection. Pour 2026, on parle d'une augmentation de 4,7 %. Pour 2027, de 7,3 %. Puis pour 2028, de 11,4 %. Donc, c'est grave parce que c'est des augmentations annoncées, mais qui font suite à des augmentations constantes depuis 2019. Depuis 2019, la demande, là, le nombre de demandes mensuelles d'aide alimentaire a augmenté de 61%. C'est énorme, puis ça s'ajoute d'année en année, puis ça fait en sorte que les organismes sur le terrain, vous parlez de la bouchée généreuse, ils ont plus de pression que jamais. Nos membres, les moissons, on leur envoie des denrées aux organismes locaux, mais c'est rendu que les organismes locaux, ils ont une file d'attente à la porte, puis ils peuvent pas accepter toutes les denrées qu'on leur reçoit parce que des fois, ils n'ont pas assez de place, ils n'ont pas assez de monde. On peut dire ils ont juste à avoir plus de bénévoles, mais non, ils n'ont même pas assez de place pour trouver des aires de travail pour les bénévoles. Donc, la pression est énorme sur le réseau à l'heure actuelle et ça peut pas continuer comme ça. C'est pas logique que dans une province comme le Québec, d'année en année, il y a plus de gens en situation d'insécurité alimentaire. À l'heure actuelle, c'est une personne sur cinq au Québec qui est en insécurité alimentaire. C'est inacceptable.
Ah, c'est inacceptable. Et là, si on augmente de 25%, on va être rendu à une personne sur quatre. Je l'ai vécu, cette pression-là, justement, avec la bouchée généreuse. Pascal, écoute, ils ont embauché un agent de sécurité pour s'assurer que tout se passe bien parce que là, il y a des gens qui arrivent et qui sont en beau joual vert d'attendre pendant 45 minutes, une heure. C'est une détresse humaine et c'est une détresse très comprenable. Puis comme je te disais, c'était censé fermer à 3 heures puis ça fermait à 4h30. Donc, il y a cette pression-là. Comment qu'on va faire, M. Munger, pour s'en sortir et abaisser cette fameuse courbe-là? Parce que Pascal nous le disait tellement bien, le coût de la vie augmente, le panier d'épicerie va coûter 1 000$ de plus par famille. Il me semble que moi, je vois pas le bout.
Bien, il faut, on va une campagne électorale en 2026, là. Selon moi, il faut que l'insécurité alimentaire, ça, puis la pauvreté, parce que c'est très lié, là, il faut que ce soit un enjeu de la campagne électorale. Il faut que les partis politiques soient rivalisent d'audace pour régler, parce que on est très conscient que les banques alimentaires, c'est du court terme ce qu'on fait, c'est du dépannage. Mais ça, c'est pas une solution à long terme. Pour qu'il y ait une solution à long terme, ben, il faut que les gens aient suffisamment d'argent dans leur poche pour se nourrir eux-mêmes. Puis ça passe par des meilleurs programmes sociaux, ça passe par peut-être un salaire minimum plus élevé, ça passe par régler la crise du logement. Parce que selon nous, c'est le principal facteur à l'heure actuelle, la crise du logement, là, qui fait en sorte que les gens consacrent tellement plus pour se loger. De leur budget qu'il n'y en a plus pour se nourrir par la suite. Ça fait que il faut régler ces problèmes-là. Sinon, on peut pas se permettre au Québec d'avoir toujours plus de gens en situation d'insécurité alimentaire. Les banques alimentaires sont, oui, on est là pour aider, on fait le maximum, mais et à l'heure actuelle, là, la pression est trop forte. Ça n'a pas d'allure.
Il y a des gens qui se questionnent à savoir si cette pression-là, elle est légitime de A à Z. On s'exprime avec le mot légitime. Il est un petit peu sévère dans le contexte. Si je peux résumer la pensée des questionnements qu'on reçoit, c'est parfait. Dans le contexte, on sait qu'il y a une inflation. Ça coûte plus cher en épicerie. Encore en 2026, certains évaluent 1 000 $ de plus par famille à débourser pour nourrir une famille de façon convenable, pas avec du caviar et du champagne. C'est énorme, encore une fois, dans des poches qui sont vides, dans le coût de la vie qui augmente partout, puis pas nécessairement les salaires. Chose étant, est-ce que le fait d'avoir démocratisé cette aide-là aussi a mené à beaucoup plus de personnes à l'accéder ou c'est vraiment régi? Parce que c'est des questionnements qui reviennent souvent. C'est parce que maintenant, les gens voient ça comme une aide prioritaire facile?
C'est une excellente question que vous avez, puis ça me permet de vous dire, quand je vous dis qu'on a 3,1 millions de gens qui viennent chaque mois demander de l'aide alimentaire, ça, c'est la fréquentation des banques alimentaires. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a une personne sur cinq au Québec qui est en insécurité alimentaire, ça, c'est pas la fréquentation des banques alimentaires, c'est une donnée de Statistique Canada qui évalue l'insécurité alimentaire. Ça n'a pas rapport avec l'offre. Ça ne veut pas dire que des gens qui viennent d'un banque alimentaire parce que c'est plus accessible, c'est des gens qui sont en situation d'insécurité alimentaire. C'est une donnée Statistique Canada, c'est une donnée objective. En fait, il y a deux fois plus de gens qui sont en insécurité alimentaire qu'il y a de gens qui viennent dans les banques alimentaires. C'est que la vraie question, c'est pas est-ce que c'est trop facile d'aller dans les banques alimentaires puis c'est pour ça qu'il y en a plus. La vraie question, c'est de dire comment ça se fait qu'il y a deux fois plus de gens même qui sont en situation d'insécurité alimentaire, puis il y en a une grande partie qui ne viennent pas dans les banques alimentaires. C'est ça, c'est inacceptable. Là. Ça, c'est une donnée objective. Statistique Canada, une donnée qui date de 2023, là, c'est la donnée la plus récente qu'on a à ce niveau-là. Mais on sait que ça a empiré depuis.
Et ce qui est très questionné, même perturbant, M. Mondrop, puis vous me corrigez si je me trompe, c'est que les gens qui vivent d'insécurité alimentaire, il y a une bonne proportion qui n'iront pas. Puis je pense qu'un des facteurs, c'est le côté, justement, gêne d'aller dans les banques alimentaires. Oui. Alors, imaginez si ces gens-là y allaient avec le fait que ça déborde déjà.
Mm-hmm. Alors, effectivement, ça fait que le réel problème, selon moi, c'est ça. C'est qu'il y a des gens qui auraient besoin d'aller dans les banques alimentaires, puis ils vont pas. C'est pas qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin des banques alimentaires, puis qu'ils vont. Ça, je dis pas que ça existe pas. Ça peut être des cas d'exception, là, mais le problème à côté est bien plus gros. Mm-hmm. C'est les gens qui en ont besoin, puis ils vont pas.
Puis il y a tellement de textos qui entrent. C'est des gens qui travaillent fort, qui ont un salaire qui était acceptable, qui était un bon salaire il y a quelques années seulement. Ouais. Des gens qui travaillent à plus de 40 heures semaine, puis il y en a qui nous écrivent, c'est pas drôle quand tu gagnes 28 $ 30 $ de l'heure et que tu as besoin de l'aide alimentaire. Je suis pas rendue là, mais si ça continue, oui. Je connais des gens qui en sont rendus là avec 28 $ 30 de l'heure, puis c'est pas parce qu'ils font des dépenses épouvantables.
Je veux pas mélanger des auditeurs avec plein de statistiques, là, mais la proportion de parmi les gens qui fréquentent les banques alimentaires, ce qui a augmenté le plus dans la dernière année, c'est les travailleurs à faible revenu. On a encore là une personne sur cinq qui fréquente les banques alimentaires, c'est des travailleurs à faible revenu. C'est des gens qui contribuent à la société par leur travail, contribuent à l'économie, mais qui ont pas assez d'argent pour se nourrir convenablement. Ça montre qu'il y a une faille dans le système, là.
Monsieur Manger, pour aider les organismes, aider justement le fait d'avoir plus de denrées, parce qu'on le sait, Moisson Québec gère justement, distribue des denrées à énormément d'organismes, mais ne peut pas suffire à l'augmentation de cette demande-là. Mm-hmm. Est-ce qu'on doit passer par la philanthropie? Est-ce que des grandes entreprises devraient investir dans les banques alimentaires? Mais encore là, ces grandes entreprises-là, souvent, ont déjà une mission ou une fondation. Ça doit être difficile d'aller chercher encore plus de moyens?
On a les banques alimentaires, les moissons, nous, l'Association des moissons du Québec, si on veut, Banque alimentaire Québec, c'est l'Association des moissons, on utilise la philanthropie, on distribue une valeur de 346 millions de dollars de denrées par année. Et ça, c'est la grande majorité de ça, c'est pas des subventions gouvernementales, c'est des dons d'entreprises, soit des dons monétaires, soit des dons en denrées. Le réseau des banques alimentaires, c'est probablement le réseau qui a le plus recours à la philanthropie au Québec à l'heure actuelle. Là, on est basé sur le don.
C'est un problème, on devrait changer les choses?
En soi, c'est pas mauvais là, que la société contribue, mais ce qui est un problème, c'est que les gens n'ont pas suffisamment d'argent pour se nourrir eux-mêmes. Nous, qu'on dépanne une partie de la population parce qu'il y a eu un changement subi ou des choses comme ça, c'est correct qu'on est là pour ça, mais qu'on dépanne sur une base régulière des travailleurs assez, parce que vous pouvez comprendre qu'un travailleur à faible revenu, là, s'il vient un mois, là, le mois prochain, là, c'est encore la même situation, puis le mois suivant, c'est encore la même situation. Donc, ça fait que c'est des gens réguliers, des gens qui viennent régulièrement dans les banques alimentaires. Et c'est pas pour ça qu'on existe au départ des banques alimentaires, c'est plus pour du dépannage ponctuel. Mais là, la demande augmente tellement. Et la situation économique des personnes à faible revenu se détériore avec la crise du logement, ça fait en sorte que c'est de pire en pire d'année en année. Puis, écoute, faut pas se rendre à 30 % puis à 40 % là. Dans quelle société on va vivre là, si quasiment la moitié de la population est en train de se nourrir convenablement?
Non, en effet, en terminant, M. Munger, c'est quoi votre pire scénario? Est-ce que vous vous dites, avec l'augmentation prévue de 23,4 % d'ici 2028, je serai pas capable de nourrir tout le monde?
Moi, mon pire scénario, là, c'est qu'il y a des organismes qui ferment parce qu'ils sont à bout. puis que ça soit encore pire pour les gens parce qu'il va y avoir moins d'organismes, parce que les organismes n'ont plus les moyens d'offrir le service à la population. Et ça, on commence à le sentir de plus en plus. On en a des organismes qui sont vraiment à bout de leurs ressources à l'heure actuelle. Vous parliez tout à l'heure de la pression que les gens ont, l'agent de sécurité là, qu'il y avait à la bouchée généreuse. Bien, imaginez là, les gens, les bénévoles puis les travailleurs de ces organismes-là qui sont face, à chaque jour, font face à des gens découragés, sans solution, et des fois être obligé de refuser ou de leur en donner insuffisamment ou que les gens fassent la ligne d'attente pendant une heure à la porte, ça leur met une grande pression sur les épaules.
Non, vous avez tellement raison, M. Munger. On va se souhaiter justement que l'année électorale permette aux différents partis politiques de trouver des solutions plus pérennes et plus pertinentes pour les banques alimentaires parce qu'on vit nécessairement un très grand problème. Merci de votre disponibilité aujourd'hui, M. Munger.
Je vous remercie beaucoup d'en parler. Bonjour.
Merci, Martin Munger, directeur général des banques alimentaires du Québec, qui était avec nous. Hey, Pascal, il y a tellement des bons points dans ce qu'on vient d'entendre de M. Munger. Puis quand il parle des organismes, justement, à bout de souffle, écoute, moi, je pense aux deux dames qui nous distribuaient les pommes. Parce que de la façon que ça fonctionne, la distribution à la bouchée généreuse, c'est que premièrement, on est dans l'ancien garage Sears à Fleur-de-Lys. Et là, il y a la moitié du garage qui est réservé pour les gens qui font la file. Et malgré ça, il y a des gens qui font la file dehors aussi. Et il y a des tables. Quand tu sors de la file, il y a une bonne cohorte de tables, à peu près une dizaine. Et là, les gens distribuent la bouffe aux gens qui viennent la chercher. Mais derrière ça, il y a une autre équipe de bénévoles qui fait les boîtes pour les gens. Donc, exemple, moi, j'étais dans cette équipe-là. Fait que je me promène avec mon panier d'épicerie. Puis là, je sais que dans une boîte, je vais mettre 4 piments, je vais mettre 2 concombres, je vais mettre, etc. Puis là, je fais le tour. C'est comme si j'étais à l'épicerie et je fais le tour. Et à chaque station, pour aider les gens qui ont les paniers, pour que ça aille plus vite, souvent, il y a des gens qui vont mettre directement dans les boîtes. Donc là, je pense aux deux dames qui étaient aux pommes. Bien, ils ont été aux pommes de 10h le matin à 4h30.
Sans arrêt.
Peut-être un petit arrêt pour dîner. Mais c'est deux femmes de 80 ans et plus, épuisées à la fin.
C'est sûr.
Puis là, je leur disais, « Hey, faites-moi les pas mes sacs de pommes. Il n'y a pas de trouble, moi, y faire, moi, quand je vais passer. » Non, tu vas à file. Donc, eux sentent la pression de cette file-là. Mm-hmm. On est le 24 décembre. Ils vont avoir de la misère à réveillonner avec leur famille. Sinon, ne pas réveillonner pantoute parce qu'ils étaient brûlés, bien raides, les deux dames. Parce qu'il y a cette pression-là qui vient sur elles. Des dames qui ont un cœur, écoute, gros comme la ville de Québec, là, on s'entend. Ils ont été là toute la journée.
Pour de l'aide.
Qui se présentent pour de l'aide.
24 décembre à 80.
Oui. Puis là, qui sentent cette pression-là. T'sais, même si moi, je leur disais, hey, je suis assez en forme, on va me pencher dans le bac à pommes. Non. Tu fais la file.
Ouais.
Toi, il faut que tu sortes les paniers. Ça presse. Il y a du monde dehors. Donc, il y a cette pression-là sur les organismes. Et je le voyais chez les bénévoles de la bouchée généreuse.
Ouais, c'est un bon point, ça.
Puis je le voyais aussi chez les dirigeants, veux, veux pas. T'es Marie-Pierre, là.
Ils sentent mal. Bien, je veux dire, il y a eu un branle-bas de combat pour trouver un endroit semi-chauffé pour faire attendre ces gens-là. Parce qu'avant, c'était ailleurs, là. C'était face au, au grand marché. Puis ça débordait, puis le monde attendait à moins 34.
Ah oui, le monde attendait à moins 34, puis ça allait même déborder jusqu'au boulevard Amel.
Les frères
Fidel
se sont enlevé la main, puis se sont mobilisés parce que la ville ne trouvait pas un autre endroit.
Mais tu sais, même les deux Gravel, qui sont des personnes extraordinaires, là, je l'ai vu dans leur face, là, Marie-Pierre, quand elle a dit « OK, on sort des palettes », là. Je le voyais dans sa face, c'était comme « My God, on est rendu là ».
Puis comment on va faire en 2026? Parce que je t'ai sorti des chiffres, moi, pendant le temps des fêtes, je me disais « C'est sûr qu'on allait en jaser », puis là, t'arrives avec cette super entrevue-là, donc ça va de soi d'en jaser, mais c'est vrai qu'actuellement, le coût d'épicerie pour 2026 est évalué à 1000 $ de plus pour une famille moyenne de 4 personnes. Ça a augmenté partout, les viandes, les légumes, les produits secs. Ça, c'est les trois catégories où ça va être particulièrement touché. Puis en passant, j'ai parlé à Sylvain Charlebois, puis j'ai sorti des rapports avec lui, puis c'est sur le rapport sur les prix alimentaires alimentaire de 2026. Donc, c'est sûr que la volatilité des prix, la dépréciation du dollar canadien, là, ça va remonter un peu là, dans la prochaine année au niveau des États-Unis, mais tu sais, notre dollar vaut 70 sous là, actuellement là, aux États-Unis.
Puis là, actuellement, les fruits et les légumes qu'on a ces tablettes, on s'entend, ils n'ont pas cultivé dehors au Québec hier matin. Là.
Changement climatique, les défis de main-d'œuvre agricole. Puis là, on veut couper aussi dans tout ce qui est immigration, dans des métiers parce qu'ils ne sont pas assez prisés. Les salaires ne sont pas assez élevés selon les demandes au provincial, au fédéral. Dans des métiers qu'il n'y a pas grand Québécois qui ferait et dans lesquels il nous manque de gens pour les faire. Puis on parle d'agriculture. Prévision clé, tiens, pour 2026, je l'ai mis comme ça dans ma catégorie, mais augmentation globale 4 à 6 %
du panier d'épicerie.
Coût annuel pour une famille de 4, 17 572 $ environ. C'est le 1 000 $ de
juste
plus.
Juste en épicerie, puis là, on est dans une crise du logement où le logement augmentait en plus.
Viande, hausse de 5 à 7 %
Ouf.
Pensez-y, là. Ben la viande que vous payez actuellement est déjà extrêmement chère hein, sur les tablettes.
Et là, elle va hausser encore.
Les légumes, augmentation jusqu'à 5 % Des gens me disaient pendant le temps des fêtes, quand je posais la question, Jeff, qu'est-ce qui vous a surpris le plus? On a parlé de pommes. Mm-hmm. Pourtant, on a la période des pommes ici au Québec. Là. Des sacs de pommes à 7-8 $ on en a vu même en pleine saison.
Oui.
Produits laitiers, 4 %
Oui, puis ça, tout ce que tu nommes produits laitiers, fruits et légumes, c'est très perturbant parce que c'est des aliments essentiels à une vie saine et équilibrée.
Oui.
Et ça, c'est plein d'enfants qui ne mangent pas sainement. Donc là, des risques de problèmes de santé, des risques d'obésité.
De développement.
C'est ça, du développement qui ne se fera pas ou qui va se faire en retardement. C'est très perturbant ici au Québec. Là.
Angle mort. La santé mentale de ces parents-là qui ne peuvent pas offrir ce qu'il faut à leurs enfants ou avec un équilibre qu'on aimerait tous pour le développement de nos enfants parce qu'on les aime, mais on n'y arrive pas. Donc, il faut faire des choix où on retourne auparavant dans des choix qui étaient plutôt non conscients. Ah, ça, c'est bon, mais c'est plein de sucre raffiné, c'est ci, c'est ça. Maintenant, on a une éducation à travers ça. On a le goût de l'offrir, cette alimentation équilibrée-là, à nos enfants, puis on n'est pas capable.
Non.
Mais même en ce qui concerne ces aliments-là qui coûtent moins cher, mais qui ne sont pas bons nécessairement pour la santé tout le temps, il y a eu une augmentation. Fait que c'est plus juste, hey, est-ce que je choisis entre un légume frais et ou un liquide quelconque qui a plein de sucre, mais au moins je donne quelque chose à mon enfant. Non, non, ça aussi, ça devient difficilement accessible. Tout ce qui sauvait les pâtes. Les pâtes augmentent. C'était souvent un dépanneur. Probablement, les enfants aiment ça. Pas grand enfant qui passe pas par le régime.
Un petit peu de sauce tomate là-dessus, puis let's go, tant qu'à y être.
Au moins, ils mangent.
On va prendre un truc de fromage, on va en romper un peu, puis let's go, c'est fait. Là.
C'est des impactés, les pâtes, le café. Tu sais, la détresse psychologique. Là. Pendant le temps des fêtes, j'ai lâché un coup de fil à tout ce qui est média au niveau du SPVQ.
Oui.
Si vous avez besoin d'aide, il n'y a pas de problème, là. Vous savez, on est là pour vous. Vous pouvez autant nous écrire, on vous envoie des ressources au 88-971-1021, qu'on peut être des écoutes, des oreilles, mais il y a aussi tout ce qui est prévention du suicide, c'est 24 heures sur 24. Pendant le temps des fêtes, c'était par dizaines d'appels de détresse psychologique. Ici, dans la capitale nationale, les agents policiers ont été dérangés, ou demandés surtout, pour deux choses particulières. La détresse psychologique depuis la pandémie, constante évolution, et les chicanes de famille. Ça a été les deux raisons pour lesquelles les services policiers étaient impactés.
Une des raisons, je pense, la plus importante de séparation dans des couples, c'est l'argent. C'est la gestion budgétaire. Alors là, imagine-toi, tu es un couple. Je vais reprendre l'exemple de notre personne qui nous écrit, notre auditeur, et merci beaucoup pour ton témoignage. Tu gagnes 28$ de l'heure, tu n'arrives pas. Il faut aller à la banque alimentaire. Imagine le déchirement que tu as. Et là, comme Martin Munger le disait en plus, il y a plein de gens qui y vont pas. Fait que ça veut dire qu'il y a plein d'enfants qui ne mangent pas parce que la personne n'ose pas faire le pas. Et c'est difficile de faire. Là. Moi, j'ai déjà géré une banque alimentaire. Là. Une adulte ou un adulte qui arrive puis qui dit « OK, moi, j'ai une job. Je gagne 22$ de l'heure. Mais là, je m'en viens m'asseoir dans ton bureau, Jean-François, parce qu'il faut que je te demande de l'aide alimentaire. » Aïe, aïe, aïe. L'estime de soi...
C'est difficile.
C'est capoté comment c'est difficile.
Tu as des regrets, tu te compares, tu vois les autres enfants
puis
qui mangent
comment
à
ça,
faim,
je suis pas capable,
tiens.
Puis voyons donc. Ouais, mais là, c'est parce qu'écoute, tu sais, le logement a augmenté de 400$ par mois, telle affaire. Besoin d'un véhicule parce que j'ai des jeunes enfants, je vais les porter à la garderie, à l'école, j'ai besoin de mon véhicule pour aller travailler. Le transport en commun suffit pas. Donc, c'est une roue épouvantable qui tourne d'augmentation. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver des solutions plus pérennes, parce que ça n'a aucun sens. Hey, un adulte sur quatre, une personne sur quatre au Québec en 2028 va vivre de l'insécurité alimentaire.
Puis on le voit, là, on voit chez nos propres voisins, là, je cogne à une porte, puis
ben oui.
C'est eux qui sont impactés. Là. Je ne vous dis pas votre voisin directement, mais
non.
Et regardez dans votre rue, là, puis assurément qu'il y a des familles qui en ont besoin. Et le creux actuel, il se fait de plus en plus vorace entre la classe en difficulté, mm-hmm. puis la classe aux ressources élevées. La classe moyenne est en train de se détruire. Là.
Oui.
Elle n'existe presque plus. Dans
en
le sens
effet.
Où la différence entre une classe plus aisée et une classe en difficulté est beaucoup moins en sécurité dans cette classe moyenne qu'on a connue depuis des années. Elle est en voie d'extinction.
Tu as entièrement raison. Ça nous permet justement de dire qu'on a encore le conteneur de la bouffe week-end ici dans le stationnement du 815 boulevard Le Bourgneuf. Ça va justement au Patro Rocamadour et à la Bouchée Généreuse. Vous pouvez venir donner des denrées non périssables jusqu'au 13 janvier prochain. Donc, venez emporter justement si vous en avez, parce que souvent, le mois de janvier, c'est un mois très, très, très difficile pour les banques alimentaires, très difficile pour les gens qui sont en insécurité alimentaire. Alors, n'hésitez pas. T'sais, ces gens-là qui travaillent à petit salaire, des fois, travaillent dans des emplois aussi que ça se peut que tu sois coupé à 3 jours semaine.
Mm-hmm,
puis en janvier, il y a moins de business qui se fait. Fait que c'est là que tu es coupé. Fait que c'est là que tu as encore plus de besoins.
Puis tu sais, mettons, il y a un angle mort aussi, Jeff, qui je me permets pas souvent de l'aborder en ondes.
Vas-y.
Parce qu'il est plus complexe, puis je veux pas faire peur quand j'en parle. C'est pas le point. Mais je veux parler de faits. Dans le contexte actuel, avec ce qui se passe avec les États-Unis, avec ce qui se passe dans la guerre des ressources naturelles, les présidents, les gens à la tête de pays qui mm-hmm. veulent devenir les puissances économiques au monde, il y a des angles morts importants. Quand la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine, il y a eu des impacts agricoles directs sur toute l'Union européenne, sur le pays même de l'Ukraine, parce que, bon, suite à cette guerre-là, aux bombardements, aux milices mm-hmm. sur les sols, c'est 20 à 30 % des terres agricoles actuellement qui étaient utilisées avant cette guerre-là, avant cette invasion-là, qui sont désormais inutilisables, dangereuses à cultiver. C'est 30 % de la production de céréales, puis on appelle ça les oléagineux là, dans le monde, dans l'année, qui ont eu des pertes de revenus très, très lourdes. La France, qui est connue pour bon, ses pains, ses baguettes, ses croissants pendant plusieurs années, a eu de la difficulté parce que pendant plusieurs mois, ils s'approvisionnaient, eux, du blé de l'Ukraine pour beaucoup. Il n'y avait pas assez de blé. Ils n'étaient plus capables de faire rouler leur propre économie.
Puis il y a une grosse crise du secteur agricole aussi là-bas au même moment.
Énorme. Au niveau de tout ce qui est Union européenne, bien, c'est la réduction des exportations aussi hein, dans le monde, ça menait à une hausse des prix agricoles internationaux. On a été touché, tout le monde est touché. Pour les céréales, l'huile de tournesol, entre autres. Et ça crée de l'incertitude dans les marchés parce que ces matières premières-là servent à la construction de d'autres aliments, à des préparations de nourriture, etc. En résumé, l'invasion de la Russie en Ukraine a perturbé le monde alimentaire partout dans le monde. Et là, on parle d'un conflit.
Ouais.
S'il y en a en augmentation, comme ceux qu'on peut surveiller à travers le monde puis qui sont dans certains articles aujourd'hui, ça pourrait mener à une grande volatilité des prix, des flux importés qui seraient perturbés, des mesures de quotas qui seraient différentes. L'énergie, fertilisant, on fait quoi avec ça? Ça va être de plus en plus cher pour nourrir nos terres, nos légumes, etc. Des tensions internes, des tensions externes avec d'autres pays.
En effet.
C'est des angles morts dont on ne parle pas souvent. Parce que ça va venir
mais
avec
qui sont réels.
Mais c'est des rayons qui sont à fort impact pour des sociétés.
Très, très, très réels. On a un auditeur qui nous écrit, c'est très dur sur le moral de faire la demande pour de l'aide alimentaire, surtout quand tu te fais retourner parce que théoriquement, tu gagnes trop pour l'aide alimentaire. En effet, je sais que les banques alimentaires sont en train de réviser, si ce n'est déjà fait, les quotas justement pour ça. Parce que moi, je me souviens, il y avait eu une première révision qui avait été faite avec la COVID où le seuil de pauvreté avait augmenté.
Ouais.
Parce que tu pouvais faire une demande à l'aide alimentaire seulement, par exemple, si tu gagnais moins de 32 000 $ par année. Mais là, je sais que ça avait été augmenté à un barème de 40 44 000. Puis là, pour les familles, mettons, un 70 75 000. Donc,
ça
je sais qu'on augmente ces barèmes.
De
oui,
l'aide.
Parce que,
avec
là, tu viens d'en parler,
la hausse des loyers, tout ça.
Les aliments augmentent énormément avec l'inflation. Les logements augmentent énormément. Fait que la pauvreté d'hier, tu sais, où je vais plus m'exprimer comme ça, la richesse, entre guillemets, d'hier est devenue la pauvreté d'aujourd'hui.
Oui, vraiment, t'as raison. Puis tu sais, c'est ça, cette classe moyenne-là est en voie d'extinction.
En plein ça. Donc, merci Pascal, c'est une belle conversation, ça.
Des petits
ça...
détails, mais je pense qu'il faut toujours l'avoir dans notre pérennité puis dans notre développement ici en tant que pays. On a vu des serres se construire pour l'approvisionnement hivernal, pour être capable d'avoir des cultures même en temps froid. Pour... Mais ça, je m'excuse, avec les technologies qu'on connaît, je comprends pas qu'on soit encore dans la structuration de la construction, dans les premiers tests.
En effet. On n'a peut-être pas été assez précurseurs.
Bien, assurément qu'on a manqué
le bateau. Assurément, pour, je vais le dire comme ça, assurer notre propre sécurité alimentaire, on n'a pas été assez précurseurs, se tournant justement vers d'autres pays, d'autres économies, mais le monde géopolitique change
tellement. Puis à quel prix on vend nos terres agricoles aussi? Tu sais, je parle pas d'une somme, là.
Ouais.
Ces terres agricoles-là qui sont normalement protégées doivent être respectées parce que c'est ça qui, au final, est dans notre assiette.
T'as raison. Et qu'est-ce qu'on investit aussi en termes de lutte à la pauvreté? Et qu'est-ce qu'on investit aussi pour que nos agriculteurs puissent continuer à cultiver?
Puis la perpétuité du savoir... On ne motive pas ces jeunes-là à reprendre les fermes familiales
le
pour multiples raisons.
Le fameux reprenariat, tu as raison. On entend ça toujours sur les lèvres de tous les économistes. Le reprenariat au Québec est en difficulté.
Dans des secteurs comme l'agriculture, qui en arrache déjà et qui en souffre amplement. Il y en a dans leur bateau. Mm-hmm.
Dans des secteurs clés. Merci pour vos témoignages au 418-971-1021. Gang, on est avec vous, ceux qui vivent des difficultés, puis on va vous supporter là-dedans. N'hésitez jamais à nous écrire, puis si on peut, on va justement vous référer aux bons endroits. On fait une courte pause à Marceau le matin à Boulevard 101. Par la suite, on revient avec la conclusion de cette première émission de 2026. On est très heureux d'être de retour en ondes avec vous à Boulevard 101. Boulevard 102.